Il y a quelque temps, je rencontre une dame très bien, très propre sur elle, et qui me fait part de la joie de voir que sa fille s'est fiancée. Et elle me dit, j'espère qu'ils imiteront la Sainte Famille. Et je leur pose la question, mais votre fille est-elle enceinte ? Mon père, c'est complètement hors de propos. On parle de la Sainte Famille. Eh bien, précisément, ma chère madame, la Sainte Famille, c'est une fiancée enceinte, non pas de son fiancé, mais d'un père mystérieux, et le mari n'est pas le père. C'est la Sainte Famille. Ce n'est pas, j'allais dire, le modèle bourgeois issu du XIXe siècle qui s'applique là, mais bien une réalité biblique. Elle est sainte, parce qu'elle accepte, cette famille, une transcendance. Vous savez comment, justement, on dit saint en hébreu, on dit ça kadosh. Kadosh, c'est-à-dire celui qui est séparé. Être saint, c'est être séparé. Ce n'est pas des qualités morales. En tout cas, dans le judaïsme, vous le savez, comme dans l'islam, il n'y a pas de saint canonisé, comme nous en avons dans notre foi catholique, parce que nous sommes la religion de l'incarnation et c'est tout naturellement que nous voyons dans certaines personnes des médiations pour aller vers Dieu. Ce n'est pas le cas dans le judaïsme. Saint, c'est celui qui est tout autre, séparé. Et je me suis dit, tiens, en quoi la Sainte Famille est sainte ? Parce qu'elle accepte le tout autre. Ce n'est pas un modèle, on peut dire, catholique, comme on l'entend habituellement, c'est un modèle qui nous renvoie à une transcendance, à quelque chose de différent, à un ailleurs. À un ailleurs qui fait que le Seigneur, dans cette rencontre au temple avec ses parents, leur rappelle qu'il n'est pas fait uniquement pour cette terre. Ton père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? Il est dans le temple. Et ce n'est pas du tout un hasard. Dans le temple, ça veut dire quoi ? Il est dans le lieu du un. C'est ça le temple. Vous faites bien la différence entre temple et synagogue. Temple n'a rien à voir avec une synagogue. Synagogue, c'est une salle de prière. Souvent assez laide du reste. J'en ai visité quelques-unes. Bon, ça n'a rien de particulier. Le temple, lui, devait être magnifique. Vous le savez qu'il a été détruit en l'an 70 par les armées de Titus. Et donc, il était dans le temple, il était dans le lieu du un, il était dans le lieu de la transcendance, dans le lieu où on n'a pas pris sur l'autre. Et je me suis dit, tiens, au fond, est-ce que la sainteté dans la famille, c'est d'accueillir le chemin de l'autre, refuser d'avoir une emprise sur l'autre, faire que l'autre soit autre que moi. C'est loin d'être évident parce que plus on aime quelqu'un, et les parents de Marie et Joseph aimaient Jésus, évidemment, plus on aime quelqu'un, plus on a d'attentes sur cette personne, plus on a de désirs pour cette personne. On aimerait qu'il soit ceci, qu'il soit telle formation, qu'il soit telles études, qu'il choisisse tel conjoint. C'est ce qu'on appelle les loyautés. Les loyautés, c'est-à-dire vouloir que l'autre réponde à mes attentes et, comme enfant, on veut répondre aux attentes de ses parents, on veut être une fille super, un garçon super, en répondant à ses attentes. Alors que ce n'est peut-être pas mon désir, ce n'est peut-être pas mon chemin. Renoncer à mettre la main sur l'autre, renoncer à ce que l'autre réponde à ma manière de voir son bonheur. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui dans le mystère de la Sainte Famille. Nous célébrons au fond un mystère de chasteté. Mystère de chasteté, vous le savez, la chasteté, c'est justement refuser d'avoir la main sur l'autre. Ce n'est pas juste une question de braguette, c'est refuser d'avoir une emprise sur l'autre, que l'autre soit mon image et ressemblance. Et les dérapages au niveau de la braguette sont souvent des dérapages par rapport à l'emprise. Évidemment. Et donc, du coup, c'est intéressant de dire, tiens, On est là face à un mystère de chasteté. Hein, la Sainte Famille, Kadosh, être séparé, être complètement autre, être différent d'eux, c'est précisément ça que Dieu attend de nous, quel que soit notre état de vie. Quel que soit notre état de vie. Mais parfois, c'est vrai que c'est plus difficile à vivre que dans certaines circonstances que d'autres. Je pense, pour vous qui êtes célibataire, et c'est un célibataire aussi qui vous parle, pour vous qui êtes célibataire, c'est peut-être pas si facile que ça de ne pas répondre aux attentes des parents. C'est pas facile, si facile que ça de se positionner par rapport aux parents et à leurs demandes par rapport à vous. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit, le fait de se marier et ensuite d'avoir des enfants, c'est répondre au désir de continuité de la famille. Mais le fait d'être célibataire, est-ce que vous-même, vous prenez conscience que vous avez à vous démarquer, à être différent d'eux, à être complètement autre par rapport aux parents et à demander votre place comme autre? Prenez un exemple concret, les fêtes de famille auxquelles vous avez participé. Il y a sûrement, souvent, les jeunes femmes, on leur dit, bah, écoute, voilà, on n'a pas beaucoup de place dans la maison, bah, tu dormiras avec tes nièces. Ben non. Non. Comme jeune femme, j'ai aussi le droit à mon intimité. Vous voyez, le célibataire comme celui qui est la variable d'ajustement. Non. Au fond, rendre, honorer son père et sa mère, c'est accepter sa place comme alter ego des parents. C'est dire je, et dire je, c'est dire non. C'est être autre que ce que attendent mes parents de moi. Pas contre eux, parce qu'honorer, vous le savez, honorer, ça vient de, dans l'hébreu, il y a l'idée de glorifier, c'est le même mot que glorifier. Glorifier, c'est honorer. Et honorer, c'est glorifier. Donc, il ne s'agit pas de sous-estimer l'importance qu'on donne aux parents. Il s'agit juste d'avoir la bonne distance par rapport à. D'être comme Jésus, dans le lieu du un, dans le lieu de la transcendance, et rappeler à ses parents, parce que comme tout autre parent, ils ont aussi des attentes sur leur enfant, comme Marie et Joseph en avaient sur Jésus, de rappeler qu'il est aux affaires du Père, c'est-à-dire sa vocation est autre que la famille continuée. Il n'a pas vocation à être une prolongation de leur désir. Ce n'est pas un désir pécamineux, c'est pas un péché que d'avoir un désir pour ceux qu'on aime, c'est très naturel, et plus on aime quelqu'un, plus on a d'attente par rapport à cette personne. C'est juste de prendre conscience que l'autre remet à sa place, eh bien, ceux qui ont des attentes sur moi, pour leur dire, ben voilà, moi j'ai un autre chemin. Jésus, dans cet épisode du Temple, rappelle qu'il a un autre chemin. Mais aussi, prenez conscience, mes amis, que vous avez aussi un autre chemin que l'attente des parents par rapport à vous. Des parents, mais ça peut être aussi des loyautés amicales. Les amis peuvent avoir aussi des attentes sur vous. Et vous voulez répondre, parce que vous êtes des amis, à leurs attentes. Mais vous sentez que ça ne vous correspond pas. Si ça vous correspond, très bien. Mais si ça ne vous correspond pas, ben vous dites non. Vous proposez autre chose. Vous voyez, donc entre le conflit, le rejet des parents et le fait de dire « je », il y a toute une gamme de positionnements, tout un curseur qui progressivement s'ajuste et où on prend conscience de sa propre place, au fond de sa propre vocation, de son propre discernement. Le discernement se fait évidemment en prenant conscience qu'on a une place qui est différente des autres. On n'est pas dans la comparaison par rapport aux autres, on n'est pas dans une réalité où on veut être plus ou moins, non, on a une place qui est différente des autres. On n'est pas contre l'autre, mais on est autre que l'autre. L'altérité, le temple, c'est le lieu de l'altérité, le lieu du un, le lieu du tout autre, le lieu de l'ailleurs. Et Jésus qui est au temple nous rappelle aussi que nous sommes faits pour un ailleurs, pour une réalité qui n'est pas juste une prolongation d'un désir humain. Alors, c'est vrai que c'est pour nous quelque chose qui demande un travail intérieur. Déjà, premièrement, se rendre compte d'eux. C'est une première étape, ce qui n'est pas la plus simple. Parce que revisiter ses loyautés, c'est revisiter sa culpabilité. Il y a quelque chose à voir avec sa propre culpabilité. Et donc, il y a un cheminement intérieur qui fait que je vais demander au Seigneur d'avoir une juste place, d'honorer père et mère, oui, de leur donner de l'importance, de leur donner du poids. Et faisons attention, et c'est ce que dit la Bible, celui qui allège son lien avec son père et sa mère sera voué à la mort. Ça veut dire quoi? Celui qui ne reconnaît pas ceux qui sont source de sa propre vie, eh bien, rentre dans une réalité mortifère. Donc vous voyez, il y a cette manière d'être en rapport avec vos parents, avec ceux avec qui vous devez beaucoup de choses, à commencer la vie, l'amour, beaucoup de des parents qui les ont aimés, qui ont pris soin d'eux, qui n'ont pas été parfaits, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ça demande à la fois de dire « je », de se positionner comme alter ego, qui est la meilleure manière d'honorer ses parents. Alter ego des parents. Adulte face à un adulte, tout en veillant à ne pas diminuer l'importance qu'ils ont à nos yeux. On ne construit pas sa vie sur les débris d'une relation avec ses propres parents. Donc je trouve que c'est intéressant cette fête de la Sainte Famille, parce que ça nous aide à retravailler les liens, les relations en général. Vous voyez, ça nous aide à retravailler les relations en général, ça nous aide à revisiter les personnes qui comptent pour nous. Ces relations chaudes, j'allais dire, ces relations tendres, comme sont les relations entre parents et enfants. Et c'est vrai que Noël est une fête tendre. C'est assez naturellement qu'on voit la Sainte Famille célébrée. Mais en même temps, de dire, tiens, ces relations tendres, ces relations chaudes, ces relations fraternelles, ces relations de confiance, elles ont besoin aussi d'être purifiées. Alors on peut demander au Seigneur cette grâce particulière de revisiter notre lien avec notre parent entre trop ou pas assez. C'est pas facile de trouver le juste milieu. On peut en faire trop, on peut au contraire dans le trop peu. Mais que l'on soit attentif que ce sont des relations qui comptent. Même si nos parents, jusqu'à Dieu ne plaise, ont été compliqués à vivre, voire toxiques, voire dans certains cas maltraitants, mais je ne vous le souhaite pas, évidemment. Mais même dans ces cas-là, je trouve que c'est important de ne pas casser le lien. Parce que de ce lien-là, naît d'autres liens, d'autres manières d'être en relation, d'autres manières d'être en communion. Et on voit bien que les difficultés de relation, bien souvent, pas que, mais bien souvent, s'enracinent dans des difficultés d'être en confiance avec nos propres parents, d'être dans une altérité et dans une communion. C'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est ça. Et l'altérité et la communion. L'Eucharistie, c'est une pédagogie. La pédagogie du tout autre. Le Seigneur qui se présente sous les espèces du pain et du vin, le tout autre, et en même temps comme une présence réelle, comme une communion plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Je trouve ça beau de reprendre conscience de ces réalités toutes simples que vous connaissez déjà, mais pas si faciles à ajuster. Justement, nous participons de l'Eucharistie et nous, régulièrement, pour revisiter nos relations, l'Eucharistie, c'est le lieu où par excellence, on va être attentif à la qualité du lien, à la qualité de la communion. Le but de l'Eucharistie, vous le savez, c'est la communion. Et après la communion, c'est la fin, aller dans la paix du Christ, comme si tout convergeait vers cette réalité intime. Demandons au Seigneur des grâces particulières par rapport à nos propres familles, confiées dans la prière. Nous sommes ici pour nos familles, peut-être pour les membres les plus complexes de nos familles. Chacune de nos familles, on a des membres qui sont complexes à gérer, complexes à entrer en relation avec, qui sont peut-être dans une certaine violence, un rejet. Ça existe aussi dans nos familles. Eh bien, puissions-nous, à travers cette Eucharistie, devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.